Lesbienne.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Eugénie Lépine-Blondeau, je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. Je suis impliquée depuis plusieurs années avec la JVL, c'est vraiment, vraiment un honneur pour moi de pouvoir réitérer mon implication cette année. Je serai l'animatrice de ce petit bouquet de balado que le RLQ et la JVL vous offrent à l'occasion donc, de la journée de visibilité lesbienne et surtout du 40e anniversaire. C'est absolument formidable. On peut applaudir parce qu'effectivement, on est à l'idéal présentement, un studio et un bar sur la rue Ontario et on a un public, ma foi, en délire. Alors ça se peut que vous l'entendiez au moment de l'enregistrement et c'est tant mieux. C'est vraiment un plaisir aussi de revenir, ce mot banni, là, en présentiel, de se retrouver en personne, de se voir, de se rencontrer, de s'écouter et de s'entendre aussi. Et pour ça, c'est parfait d'être réunis aujourd'hui. Puis je salue aussi cette initiative, comme je disais, de faire ce balado parce que après, ça va permettre non seulement de rendre un produit accessible, mais qui va pouvoir être partagé, écouté, puis provoquer des discussions même en dehors des enregistrements. Alors, félicitations à la JVL d'avoir pensé à cette initiative-là. L'épisode qu'on enregistre présentement s'appelle « L'implication des organismes communautaires pour la visibilité lesbienne » de la Journée de visibilité lesbienne 2022, organisée donc par le RLQ, je l'ai dit, le Réseau des lesbiennes du Québec. Et j'ai autour de moi des gens impliqués et qui sont là pour plein de raisons, mais qui brisent la glace aujourd'hui. Alors, je vous remercie et je vous félicite. Je vais vous nommer Marie, bonjour, du Gris Montréal.
Oui, bonjour, merci de l'invitation.
Mireille de Interligne.
Bonjour.
Et Mélanie de la Fédération des femmes du Québec.
Oui, allô, merci.
Alors, on va faire le tour de vos organismes, de vos expériences aussi dans un instant, mais je voulais aussi saluer la présence ici de Julie-Antoine, directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec, qui va nous raconter aussi l'histoire un peu de la JVL. Allô, Julie.
Allô, merci pour l'invitation. Ben, c'est moi qui organise, mais merci quand même.
C'est moi qui te remercie pour l'invitation. 40 ans d'histoire de la journée de visibilité lesbienne, cette année, c'est le thème de cette journée. Évidemment, là, on pourrait prendre toute la journée pour résumer et nous raconter cette grande histoire. Il y a beaucoup, il y a toutes sortes d'anecdotes. Mais si tu pouvais nous résumer là, en une minute l'histoire de la JVL, qu'est-ce que tu soulignerais?
Ben, en fait, on souffle les 40 bougies aujourd'hui, donc a été créé en 1982 par un groupe un peu d'autodidactes lesbiennes, donc sans moyens, on se rappelle, hein, avant il y avait très peu de moyens financiers. Aujourd'hui encore, c'est difficile pour les organismes communautaires de porter une journée comme ça parce que ça prend quand même des moyens, hein. Vous voyez, on est quand même dans un beau lieu et tout. Donc 1982, en octobre, c'est le début des journées d'interaction lesbienne, comme on appelait auparavant.
C'est ça, on n'appelait pas ça les JVL encore. Là.
Non, puis aujourd'hui, si on a choisi d'inviter des groupes aussi, c'est parce que après près de 10 ans d'implication des lesbiennes militantes, il y a eu une baisse de participation, un manque de financement. Donc, c'est par la suite, les groupes communautaires ont pris la balle, en fait, pour porter cette journée-là. Souvent, des groupes encore bénévoles, des comités femmes, en fait, qui se sont mis à l'intérieur. Donc, on s'entend toujours, mais il y avait quand même cette organisation qui aidait à élever ces journées-là. Et c'est pour ça qu'on a un petit peu invité aujourd'hui trois groupes. On aurait pu tous les inviter, mais la majorité des groupes avaient l'implication déjà auprès des femmes, la diversité sexuelle. On a décidé d'inviter aujourd'hui la Fédération des femmes du Québec, Interling et le GRI, parce qu'ils n'ont pas une mission spécifique auprès des lesbiennes. Mm-hmm. Donc, c'était ça l'objectif, un peu sortir le pourquoi du comment ils ont voulu mener ces journées-là et pourquoi la visibilité lesbienne était si importante. Donc, rapidement, c'est ça. Donc, on voulait remercier les militantes à travers le ZIN, donc, qui rend hommage à ces 40 ans. Il y a un historique à l'intérieur. On a pris beaucoup de temps pour le créer. On a mis toutes les affiches des JVL. On dit 40 ans, mais il y a eu quand même pendant 10 ans une absence de JVL. Donc, on fête les 40 ans. 82 à 2022.
Depuis la création, donc, ouais. Malgré le petit hiatus. Effectivement, j'ai le zine entre les mains. D'ailleurs, vous pouvez vous le procurer. C'est super intéressant. Les affiches sont vraiment belles puis c'est beau de témoigner de 40 ans d'histoire comme ça. Et c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Julie.
Merci.
Julie-Antoine, bien sûr. Merci. Alors, on va faire le tour de nos panélistes. Je vais vous présenter encore une fois. Je vais commencer par Gris Montréal et sa directrice générale, Marie Ouzo. Allô, Marie. Moi, je vous ai déjà juste parlé, nommé avec vos prénoms tantôt. Je me suis dit qu'on était déjà des grandes chums. Mm-hmm. On a quand même quelque chose qui nous lie, c'est-à-dire le lesbianisme, on va le dire comme ça. Alors, moi, je trouve que tout de suite, ça crée des clans. Bref, Marie, née en Belgique, et puis t'es arrivée à Montréal depuis 1990, si je me trompe pas.
Oui, à la fin des années 90.
Années 90. Et en tant que consultante en développement organisationnel, tu t'es impliquée au sein du Gris Montréal, d'abord comme bénévole, puis un an plus tard, dans le conseil d'administration, et t'es à la direction générale de l'organisme depuis 2005. Le Gris Montréal, quant à lui, ben, c'est un organisme fondé en 1994. Il joue un rôle primordial dans les établissements scolaires de la province en démystifiant les réalités LGBTQ+, par le biais notamment de témoignages des gens issus de la diversité sexuelle et de genre. Le Gris a ses réseaux satellites aussi. Il y en a également, il y a Gris Québec, Chaudière-Appalaches, Mauricie, Centre du Québec, Estrie, et ça fait des petits aussi en Acadie et en Wallonie, mm-hmm. en Belgique. Alors, peut-être que tu peux... Est-ce que ça fait le tour? Qu'est-ce que j'ai pas nommé par rapport au Gris?
Au point de vue historique, c'est pas mal sur le développement aussi. Peut-être juste dire que ce sont des bénévoles formidables qui portent cet organisme-là à bout de bras depuis sa création, en fait. Donc, on est très, très fiers de pouvoir compter sur cette équipe si impliquée que ça.
Est-ce qu'on démystifie encore l'homosexualité puis les questions de diversité ou on est rendu ailleurs? Est-ce que c'est un mot qui est encore à propos quand on parle des diversités sexuelles et de genre?
Ben, si vous preniez le temps de regarder, parce qu'on fait aussi de la recherche avec nos interventions, on a des questionnaires où les jeunes expriment leur niveau de confort, où il y a des questions ouvertes aussi vis-à-vis de l'orientation sexuelle. Si vous preniez le temps de lire quelques-uns de ces questionnaires-là, ça répondrait de facto à la question. On passe de « vous êtes formidable » à « je vous tuerai tous » avec n'importe quoi au milieu. Donc, il y a vraiment encore beaucoup, beaucoup de travail à faire, c'est certain. Et vraiment, le travail sur la connaissance des réalités liées à nos communautés. Ce n'est pas quelque chose de linéaire où on va toujours vers le mieux. Malheureusement, c'est plein de vallons, de creux, de lacs et de sommets. Et là, on est plutôt dans un creux, en fait, malheureusement.
Ah ouais?
Ouais. Je trouve que ça ne va pas forcément mieux qu'il y a 5 ans.
Ouais. OK, c'est très intéressant. On va continuer de présenter les autres filles, puis on va revenir à ce creux-là et voir si les autres organismes le ressentent aussi. Mireille Saint-Pierre de Interlink. Salut, Mireille.
Salut, Génie.
Coordonnatrice de l'intervention clinique chez Interlink, sexologue également. Tu es une fille qui aime l'intervention. Mm-hmm. Si j'ai une passionnée hein, d'intervention auprès des populations marginalisées et à son accessibilité aussi, afin que toute personne puisse avoir accès à un soutien de qualité et adapté dans l'organisme. Et tes intérêts sont centrés autour du stress minoritaire et du self-care. Interlink, quant à lui, c'est un organisme qui offre un soutien aux personnes LGBTQ+, et à leurs proches par l'entremise d'un service d'aide et de renseignement et de différentes activités aussi, je pense, formidable bingo qui se passe depuis quelques années. Que j'ai le bonheur d'animer. Anciennement, Gay Écoute, qui était un changement de nom nécessaire, selon moi, et surtout utile pour nous, les lesbiennes. Alors, quelques mots sur Interlink, sinon?
Bien, je pense que tu as quand même fait... Il y avait déjà beaucoup de mots. Mais tu as touché quelque chose qui a été important pour nous dans les dernières années, là, donc le changement de nom de Gay Écoute à Interlink, qui a démarré dans les conversations, justement, au fait qu'on avait l'impression à l'interne, autant que les femmes étaient très invisibilisées, que sur le service aussi. Donc, contrairement, par exemple, à beaucoup d'autres lignes d'écoute, où c'est beaucoup plus des femmes qui joignent, ou en tout cas, c'est plus balancé de notre côté. Les femmes étaient minoritaires là, sur la demande de services, puis il n'y avait pas d'autres services qui étaient spécialisés ou qui s'adressaient aux femmes lesbiennes et bisexuelles en intervention ou en écoute, outre le CSL, mais donc qui était provincial. Donc, on a eu beaucoup de réflexions avec beaucoup d'humilité, je peux vous dire, là, pour amener un changement là, vers Interlink.
La réflexion et l'introspection, c'est nécessaire tout le temps, partout, mais je pense aussi dans des organismes communautaires. Alors, merci beaucoup, Mireille, d'être là. Et puis, la dernière et non la moindre, Mélanie Hederer, présidente de la FFQ, qui a fait des études supérieures en travail social. Mélanie, tu as œuvré dans de nombreux milieux, notamment en tant que coordonnatrice de recherche en violence conjugale et familiale, intervenante auprès des jeunes, chargée de projet en action collective et conseillère de crise. En 2020, tu as joint le conseil d'administration de la FFQ en tant que représentante des membres individuels, puis tu t'es présentée à la présidence de la FFQ. Tu as été élue par les membres de l'Assemblée générale en septembre 2021, et tu es devenue ainsi la plus jeune présidente de l'histoire de la FFQ. Félicitations. Bravo. La FFQ, bon, Fédération des femmes du Québec, fondée en 1966 par Thérèse Cassegrain, une organisation féministe autonome qui travaille à la transformation et à l'élimination des rapports sociaux de sexe et des rapports de domination dans toutes les sphères de la vie en vue de favoriser le développement de la pleine autonomie de toutes les femmes et la reconnaissance véritable de l'ensemble de leurs contributions à la société. J'aurais aimé ça qu'il y ait une musique de film derrière cette description. Ça fait le tour un peu de la FFQ?
Oui, vraiment.
Formidable. Parfait. Félicitations encore parce que... Ça fait un an à peu près que tu es en poste maintenant, un petit peu plus d'un an.
Oui, un petit peu moins, mais comme présidente, un peu moins d'un an, en fait.
Oui, c'est ça, un peu moins d'un an. Bon, alors j'imagine que les défis sont nombreux aussi en temps de pandémie. Peut-être qu'on pourra y revenir. J'ai envie de vous demander peut-être un tour de table au début. Comment définir justement le militantisme et le milieu communautaire quand on parle des diversités sexuelles et de genre, particulièrement des lesbiennes? Marie.
Ah ben, c'est dommage que je n'ai pas mangé ce matin. Hein, parce que... Comment définir le militantisme? Mon Dieu! Écoute, c'est toute une question que tu poses là. J'aurais envie de rebondir directement sur la question de la visibilité, en mm-hmm. fait, parce que je crois que c'est vraiment un des combats centraux pour notre communauté. Je pense que l'étiquette, l'identité lesbienne, quand on parle d'orientation sexuelle, je crois, était et reste encore l'identité la plus subversive, en fait. Et ce caractère subversif, en fait, entraîne justement cette volonté de la société autour de nous écrapoutir et de nous invisibiliser. Et donc, en tout cas, moi, mon militantisme, il va certainement dans cette direction-là pour se battre contre cette invisibilisation et pour revendiquer le mot, en fait, et toutes les réalités que ça implique. Et oui, ça se peut d'être une femme qui aime les femmes et seulement les femmes, et non, même pas un petit peu les hommes. C'est, ça se peut. Donc, voilà, ce serait ça.
Alors, j'espère qu'on entend les gens les femmes qui applaudissent. J'adore, ça fait du bien de vous entendre. Je le redis, ça fait du bien de se retrouver entre nous aussi, puis de s'encourager comme ça. OK, c'était peut-être une très grosse question pour commencer. Alors, je vais rebondir, moi, sur ce que tu viens de dire, Marie, puis vous demandez peut-être aussi dans vos organismes, comment est-ce que ça a évolué, la visibilité lesbienne? Quand on pense à Interlink, par exemple, tu l'as dit un peu, Mireille, mais mm-hmm. avant, c'était Gay Écoute. Le fait d'avoir changé de nom, ça a changé beaucoup de choses.
Oui, beaucoup. Ben, même avant le changement de nom, c'était des changements à l'interne dans qu'est-ce que c'est l'organisme, qui on est aussi. Puis pour nous, la visibilité, ça fait beaucoup. Tu sais, on est un organisme par et pour. Puis mm-hmm. comment est-ce qu'on peut être par et pour des personnes lesbiennes ou peu importe l'orientation sexuelle ou l'identité de genre si l'équipe ne reflète pas les réalités? Donc, ça a été vraiment un gros questionnement, un travail vraiment de réfléchir à qui on était comme équipe, qui était dans l'équipe, le CA, les bénévoles, les employés, donc qui était visible à travers l'organisme pour justement réfléchir à comment est-ce qu'on répond aux besoins de nos communautés, comment est-ce qu'on fait de l'intervention qui répond réellement à ce que les personnes ont besoin ou souhaitent avoir comme type d'intervention. Donc, moi, ça fait presque 9 ans que je suis chez Interlink. Quand je suis arrivée, la première rencontre où j'étais là, j'étais la seule femme. On était 35 environ. Ça vous donne une idée, là?
Une seule femme sur 35,
ouais.
Il y a 9 ans?
Oui, exactement.
C'est incroyable pour un organisme que j'affectionne. Tu sais, le but, c'est pas de faire de chasse aux sorcières ou rien, là, mais c'est fou de voir qu'il y a eu une évolution quand même marquante parce que ça a changé. T'es plus tout seule de femme, si je me trompe pas. C'est ça?
Ben, non, mais au niveau structurel, tout a changé aussi dans nos règlements généraux. Mm-hmm. Pardon. On a la première personne présidente qui est là, d'ailleurs, si tu veux lever la main, Joanne. Donc, la première présidente.
Bonjour, Joanne.
Du CA. Le CA est maintenant paritaire également. Il y a plus de femmes sur les équipes. C'est paritaire au niveau des bénévoles également. Donc, on n'est plus du tout... on est encore le même organisme. On a la même mission, mais l'organisme a énormément changé. Puis je pense qu'en faisant ces changements-là, on est aussi juste devenu plus sécuritaire pour tout le monde. Puis c'est pas parce qu'on a changé de nom, ça a amené quelque chose, évidemment, mais c'est que les gens se reconnaissaient plus dans comment on était comme organisme, les valeurs qu'on portait, puis comment on les portait aussi. C'est pour nous, c'est vraiment une façon de visibiliser, au niveau aussi intersectionnel, là, les réalités des personnes lesbiennes, des personnes et femmes lesbiennes. Ouais.
Puis est-ce que vous avez senti, du côté des gens qui font appel à Interlingue, j'imagine que là aussi, donc, en faisant ce changement-là, il y a eu beaucoup plus d'appels inclusifs, là, si on veut.
Ah oui, mon Dieu. Ça, je me rappelle même plus des statistiques d'il y a 5 ans pour vous donner une idée. Mais comme je vous disais, c'était pas du tout paritaire. On avait peut-être environ 70 % d'appels qui venaient de personnes qu'on identifiait ou qui s'identifiaient comme des hommes. Puis maintenant, on est autour de 46 % de femmes, 43 % d'hommes, à peu près 3 ou 4 % de personnes non-binaires. Dans tout ça, il y a à peu près 12 % de personnes qui s'identifient ou qui ont eu un parcours trans. Donc, on est complètement ailleurs de où est-ce qu'on était il y a 8 ans quand j'ai commencé à la ligne d'écoute. Donc, on n'entend plus les mêmes choses. Puis les personnes qui nous joignaient nous joignent toujours, se reconnaissent quand même.
Vous n'avez pas perdu du monde, là,
le service.
Ou pas à cause de ça, du moins.
Non, ouais, non, exactement. On a perdu des gens un petit peu à l'interne, mais c'est des choses qui sont généralement nécessaires quand on crée un changement important.
Ouais.
Puis ça fait qu'on est qui on est aujourd'hui.
Merci. Mélanie, à la Fédération des femmes du Québec, bon, ça, le fait, j'imagine, c'est sûr qu'il y a des femmes, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Après ça, j'imagine que de plus en plus, vos réflexions, elles ont dû être intersectionnelles, c'est-à-dire que d'englober les femmes dans toute leur diversité aussi. Comment est-ce que ça a évolué, justement, des enjeux, des réflexions par rapport aux enjeux spécifiquement liés aux personnes lesbiennes?
Bien, tu sais, dans les réflexions à la Fédération, tu sais, c'est quand même depuis longtemps qu'il y a cette volonté-là de prendre en compte les différences de pression que vivent les femmes. Tu sais, à travers les années, on les voit. Bien, j'étais pas là en 66 quand ça a été créé, mais quand on regarde les PV, tu sais, vraiment, depuis la création, il y a cette attention-là. Et on le voit à des positions de solidarité avec les lesbiennes. Au fur et à mesure de critiquer l'hétérosexisme, le cisgenre, on voit vraiment des positions qui veulent prendre en compte l'ensemble. Mais la diversité sexuelle puis les femmes lesbiennes. Par contre, quand je lisais aussi les notes, je vois qu'en 90, il y avait une grande réflexion sur l'invisibilisation des femmes lesbiennes à la Fédération des femmes du Québec. Puis c'est encore un enjeu aujourd'hui. Effectivement, je pense que comme les positions sont là, la volonté est là, mais après ça, comment est-ce qu'on le fait dans le quotidien? Comment est-ce qu'on le fait dans nos milieux, dans nos événements? Je pense qu'il y a encore un gros travail à faire. Puis Marie parlait d'un creux dans les dernières années.
Ouais.
Je pense que c'est un creux qui se fait sentir peut-être dans plusieurs organisations, dont la Fédération, dont les milieux féministes aussi. Là. Mm-hmm. Sur quelle est la place des lesbiennes? Où est-ce qu'elles sont? Je pense que la journée de visibilité lesbienne est vraiment importante.
OK, parlons-en de ce creux-là. Marie, quand tu l'as nommé tantôt, qu'est-ce que tu voulais dire? C'était au plan de l'acceptation de l'homosexualité? Parle-nous de ça.
Oui, en fait, je pense qu'on est arrivé à un moment dans le combat pour les droits où les gens pensent que voilà, c'est acquis. Mais en fait, c'est juste un vernis. Et ce vernis-là, il craque de partout, en fait. Et ce qu'on constate, c'est qu'au contraire, il y a des mouvements de backlash, j'aurais envie de dire, qui sont la résultante d'une visibilité plus grande de nos communautés. Alors, pas seulement la communauté lesbienne, parce que tant qu'à moi, il y a encore beaucoup à faire pour la visibilité, comme on le disait tantôt, mais toute notre communauté LGBTQ+, au complet. Et cette participation à l'espace public, de plus en plus importante, elle crée du ressac et des remous. Et
de ça, la part de qui?
Ben, de la part des gens dont le socle de privilèges est en train de trembler, en fait. Et ça, c'est la majorité du monde, il faut bien le dire. Donc, tu as des milieux privilégiés où on entend, ben oui, moi, j'ai pas de problème, j'ai des amis gays. Ouais, on la connaît depuis longtemps, celle-là. Ou là, ça va, oui, je peux
être gay. Je suis pas homophobe, mon cousin est gay.
C'est ça. Tu peux être un avocat gay, ça nuira pas ta carrière. Tu peux probablement maintenant faire une belle carrière comme femme lesbienne dans des milieux professionnels. Mais il reste qu'il y a encore une grande partie de la population où nos jeunes n'ont pas accès à ces milieux privilégiés-là et vivent énormément de rejets, de difficultés, de discriminations. Le milieu scolaire est encore très dur pour la plupart de nos jeunes. Alors, c'est sûr, tu sais, si tu vas dans un collège privé, ça se passe bien. Hein? Ils ont leur AGI, ils ont leur regroupement LGBT, la sexologue, c'est la star de l'école. Mais va dans des polyvalentes moins privilégiées où il y a moins de moyens, où on part au plus pressé, on éteint des feux tout le temps, ben, le travail sur l'inclusion de la diversité sexuelle et de genre, ça passe loin derrière les priorités. Et puis, on le ressent tout de suite. Tu passes le mur de l'école et tu ressens l'espèce de chape de plomb d'ambiance quand on va faire les interventions pour le gris. Donc, on aide, je crois, en tout cas, moi, je le ressens dans ce moment de ressac. Ouais.
Est-ce que vous le sentez, vous aussi, dans vos organismes respectifs? Mélanie, tu viens de le nommer un peu, mais comment est-ce que ça se matérialise? Parce que j'avoue que je l'entends tout à fait, puis je veux dire, je me fie à vous, là, puis moi, je... Mais avec les réseaux sociaux, j'ai comme l'impression qu'il y a eu, en fait, une parole qui s'est libérée, des communautés aussi qui se sont créées, puis il y a plusieurs jeunes qui vont le dire, issus des communautés LGBTQ+, mais effectivement... Comme tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, après, il y a également le backlash, l'espèce de décomplexe... Le fait de dire des commentaires de façon décomplexée, on va dire ça comme ça. Donc, vous, qu'est-ce que vous remarquez dans les dernières années, puis aujourd'hui, par exemple, par rapport à tout ça?
Ben, tu sais, moi, j'ai des membres de la fédération qui me disent que, comme femmes lesbiennes, ils se retrouvent féministes, ils ont de la misère à se retrouver soit dans les organisations qui sont pour les personnes LGBTQ+, et qui ont de la misère à se retrouver dans les organisations féministes. Mm-hmm. Fait que, tu sais, moi, j'ai des femmes qui nous disent ça, et qui ont envie de s'impliquer ou qui ont envie de se retrouver, mais qui, après ça, dans des rencontres, quand ils parlent de leur réalité ou des obstacles qu'elles vivent, vont se faire ramener que, comme, ah, oh, mais il y a le patriarcat, il y a une manière d'en parler, ou qu'il y a un seul type d'obstacle. Fait que, tu sais, je pense qu'encore aujourd'hui, tu sais, il y a vraiment des obstacles entre les femmes sur ben, comment reconnaître ces oppressions-là qui sont vécues, comment parler entre nous. C'est un défi à la fédération. Je pense que c'est un défi qui est aussi qui est dans la société, là, en général. Mm-hmm. Vraiment, il y en a qui vont parler de la compétition des oppressions. Aussi, ouais. Si on parle des réalités des femmes lesbiennes, est-ce qu'on oublie la réalité d'autres femmes? T'sais, je pense qu'il faut qu'on parle de toutes les réalités qui peuvent être semblables, qui peuvent être différentes.
Puis ça peut être compliqué aussi parce qu'au sein même du parapluie LGBTQ+, mm-hmm. il peut aussi avoir, quand tu parles de compétition, là, il peut aussi avoir comme un petit tremblement de terre là, qui se fait. Là. Est-ce que vous le sentez aussi? Au début, on parlait beaucoup des hommes gays, par exemple, des obstacles. C'est mm-hmm. passé par ça, le discours contre l'homophobie, je trouve, dans les 50 dernières années, l'établissement des politiques, tout ça. Tranquillement, les lesbiennes aussi voulaient qu'on parle d'elles, des personnes trans, et avec raison. Est-ce que ça crée des frictions au sein même des communautés? Mireille,
oui? Oui, mais au sein aussi des organismes, des choses qui se sont créées. Oui, il y a des frictions, il y a de la fatigue aussi, mm-hmm. des personnes qui se battent. Le creux, nous, je pense que c'est comme ça qu'on le voit aussi, c'est la fatigue des personnes militantes, la fatigue des personnes elles-mêmes qui doivent se battre jour après jour pour faire défendre leurs droits ou juste leurs droits d'exister. Mais oui, l'inclusion, l'intersectionnalité, de donner visibilité à toutes, par exemple, les personnes, les femmes lesbiennes, donc, qui vivent avec un handicap, qui sont racisées, donc, ça amène, en fait, ça crée des frictions parce que ça amène à nous aussi nous revoir nos propres privilèges. Mm-hmm. Puis on ne veut pas les comparer, mais c'est ça. Ça amène des frictions, ça amène des conflits parfois, des gens qui disent, ben, tu sais, moi, ça fait 30 ans que je me bats pour ma visibilité ou la visibilité des gens qui me ressemblent. C'est dur d'accepter que d'autres personnes souhaitent aussi l'avoir puis de devoir partager parfois la couverture. Là.
J'imagine quand on est un organisme communautaire aussi, on doit se battre pour l'argent. Puis plus il y a, j'imagine ça c'est une composante qui est importante pour vous parce que plus il y a des groupes ciblés, plus les enveloppes des ministères, des organismes, tout ça doivent être divisés. Puis des fois donc j'imagine c'est ça, il y a une compétition qui se passe. Marie, ouais. T'es pas d'accord?
Ben si, je suis très d'accord.
Mais... T'es trop d'accord, c'est ça. J'essaie de lire ton visage, c'est peut-être un peu de découragement finalement.
Non,
ce que
ben,
je disais.
En fait, c'est parce que le gris est un peu à part dans ce questionnement-là, parce que justement, à force d'avoir essayé de se battre pour des fonds publics, il y a longtemps, le gris a décidé, ben tant pis, j'allais dire autre chose, désolée. tant pis, on va se débrouiller nous-mêmes. Et donc, on a commencé l'autofinancement peut-être avant la plupart des groupes. Et ben, donc, cette mécanique-là, chez nous, elle est assez bien rodée. Puis, on a juste 15 % de notre financement qui vient de façon récurrente du public, en fait. Donc, on pâtit pas trop de ces réalités-là. Ça nous donne une grande indépendance et ça, c'est fantastique. Après, c'est épuisant hein, parce que chaque année, on doit aller chercher 85 % de notre financement, ce qui n'est pas toujours
simple. C'est énorme. Mélanie, tu avais l'air de...
Ben oui, mais nous, c'est sûr que c'est une réalité qu'on entend, là, que nous, on voit que nos membres là, à travers le Québec vivent aussi là, cette compétition là, autour du financement. Mais justement, tu sais, dans le fond, tu parlais de déchirure, tu parlais de s'opposer, puis je pense que c'est le contraire. Tu sais, je pense que c'est une stratégie pour que les organisations ou que les groupes soient en opposition les uns envers les autres, au lieu d'être solidaires, au lieu de se dire « OK, si on se met ensemble, on va prendre la couverture au complet. » Tu sais, je pense qu'il faut vraiment qu'on revoie. Tu sais, il y a des luttes des organismes communautaires depuis longtemps pour le financement. Je pense que ces luttes-là doivent continuer, mais justement, en les faisant, en centrant les marges. Tu sais, on fait des luttes pour les organismes communautaires et pour les organismes communautaires lesbiennes et pour les organismes communautaires de la diversité sexuelle et de genre et pour les organismes communautaires qui visent spécifiquement les femmes en situation de handicap. Tu sais, je pense qu'il faut qu'on lutte ensemble pour juste plus de financement au lieu de lutter une contre l'autre pour avoir du financement.
Je reviens sur la visibilité lesbienne en tant que telle. Vous, à Gris Montréal, c'est des gens des diversités, des bénévoles qui vont dans les écoles. C'est quoi la proportion de femmes lesbiennes qui prennent la parole dans vos dans les écoles?
Alors ça, c'est une question qui est vraiment intéressante, surtout maintenant, après la pandémie. Faire très, très rapidement, moi, quand je suis arrivée au Gris, ça va faire 20 ans quand même bientôt, il n'y avait pas beaucoup de femmes non plus. Il y a eu un comité qui s'est créé à l'époque qui s'appelait Safo Gris, puis c'était ça notre mission. T'sais, on allait recruter les lesbiennes, on était partout, on donnait des cartes. Enfin, ça a marché, maintenant, on est bien là.
le recrutement lesbien,
c'est ça, oui. Une grande spécialité. Et donc, en fait, on est arrivé à avoir la parité. Par contre, il y a quelque chose qui est intéressant avec le Gris, c'est que même au début, à sa fondation, il y a toujours eu cette volonté que les femmes soient représentées. Donc, même quand en nombre, elles étaient toutes petites, chaque intervention, il y avait cette volonté d'essayer qu'il y ait une paire mixte, en fait. Et ça a toujours été un objectif de dire on va vraiment essayer que 100% de nos interventions soient faites par un gars et une fille. À l'époque, on parlait pas d'identité de genre encore. Et maintenant, en fait, c'est drôle parce que... Ah, enfin, c'est drôle. Je sais pas si c'est drôle. C'est peut-être la revanche, la revanche de la lesbienne. Mais avec la pandémie, le bénévolat a changé. En tout cas, la mobilisation a changé. Et nous, on est dans une période un peu charnière où ben, y a des gens qui ont quitté l'organisme comme toujours. Hein, y a un cycle au bénévolat. Mais comme on n'a pas pu former pendant presque 2 ans, ben, ça n'a pas été aussi bien renversé par les nouveaux arrivants et les nouvelles arrivantes. Et donc, on a un petit creux aussi dans notre membership. Et ce qui fait que pour la première année, on a beaucoup d'interventions qui se font avec 2 femmes en classe parce que les femmes sont moins parties que les gars. Alors voilà, kudos à nous. Il y a encore beaucoup plus une grande présence des intervenantes plutôt que des intervenants, bien qu'il y en ait quand même encore. Et donc, dans l'année, ici, on a un pourcentage jamais vu de nos jeunes dans les écoles qui, au lieu d'avoir vu un gars et une fille avec des interventions du Gris, auront vu 2 filles. Est-ce que ça veut dire qu'ils auront vu 2 lesbiennes? Pas forcément, parce qu'il y a la multiplication des identités aussi. Mais quand même, il y a une représentation lesbienne dans les classes maintenant, comme il n'y a jamais eu avant. Alors voilà, on peut se réjouir de ce côté-là. En tout cas, merci à la pandémie.
Wow, je ne m'attendais pas à ça, effectivement. Alors qu'on a tellement parlé de la... Plus une aparté, mais de la charge mentale qui a été... triplé là, pendant la pandémie sur les femmes, particulièrement au sein des ménages, tout ça. C'est vrai que je me serais attendue à ce que les femmes disent « Ben là, il y a des affaires qu'il faut que je coupe, dont mes implications bénévoles. » Et c'est pas que je nous sous-estimais là, aucunement, c'est juste que c'était mon impression avec mon entourage. Je trouve ça formidable de voir ce que vous avez vu ça, vous aussi, de votre côté, dans vos organisations. Est-ce que vous, par exemple, à la Fédération des femmes du Québec, vous êtes que des femmes, je me trompe pas?
Oui, nous, il y a que des femmes.
On a continué de s'impliquer.
Oui, ben, tu sais, il y a aussi une baisse là, d'activité, donc une baisse d'implication, mais on voit qu'il y a vraiment un regain. Tu sais, là que les activités recommencent et qu'il y a vraiment une volonté. Il y a beaucoup de femmes qui nous disent « OK, on veut se retrouver entre femmes, on veut militer entre femmes, on veut pouvoir se mettre ensemble. » Tu sais, je pense qu'il y a justement, tu sais, il y a eu un creux, il y a eu une pause, mais je pense que, tu sais, peut-être que là, il va y avoir un boom là, de la militance. Demain, on révolutionne tout, mais tu sais, je pense que vraiment la pandémie a fait qu'il y a vraiment un besoin de se sentir ensemble, de se sentir unis avec d'autres femmes. Fait que je pense que ça va être quand même porteur pour l'avenir. Là.
Oui, puis on a beaucoup parlé comment la pandémie avait creusé les inégalités aussi. Donc, il y a peut-être eu une prise de conscience qui s'est faite puis qui amène finalement un regain d'implication. Bon, j'essaie de faire des explications là, de vos observations, mais je ne suis absolument pas en mesure de le faire de façon très spécifique. Chez Interling, comment vous avez évalué ça?
Ben nous, en fait, ça a été le contraire. Il y a vraiment eu un gain là, vraiment important. Là, on fait deux formations. Si je parle spécifiquement du bénévolat à l'écoute chez nous, on fait deux formations par année, puis on fait des petits groupes parce que ce n'est pas possible de faire davantage. Puis on reçoit beaucoup trop de candidatures. Puis les candidatures sont vraiment diversifiées. Ça a changé depuis peut-être 3 ou 4 ans, autant au niveau de l'âge que du background, que de l'identité de genre. Bref, ça s'est beaucoup diversifié. Mais ce que tu disais, en fait, le pouce que tu as fait sur Marie, je trouve ça intéressant parce que même si la charge mentale elle a élevé durant la pandémie, bien, souvent la charge sociale aussi du care, elle est souvent sur les femmes. Donc, même si les femmes en ont plus, ils sentent aussi qu'ils doivent redonner à la communauté la plupart du temps. Donc, et je dis femmes, mais ça inclut aussi toutes les personnes non binaires, les personnes bien trans sûr, en général. Bien sûr, ouais. Donc, ça fait qu'elles sont souvent sursollicitées surreprésentées aussi dans les groupes de bénévoles. Je sais que dans les communautés LGBT, c'est différent. Moi, quand je suis arrivée, c'était beaucoup des hommes, mais depuis un temps, là, ça, depuis une dizaine d'années, le portrait change vraiment beaucoup.
Il y a comme un retour au balancier, ou je ne sais pas si c'est un retour, mais un balancier qui se crée très certainement. En terminant, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, j'ai envie de vous poser deux questions. La première, c'est peut-être encore une fois un tour de table sur les tabous. On l'a un peu dit, mais les tabous, les défis qui restent encore, puis que vous voyez qu'il faut surmonter rapidement dans les prochains, parce que tu parlais du creux, Marie, mais si on les nomme concrètement, qu'est-ce que vous voyez, vous, comme défi par rapport à la visibilité lesbienne?
Bien, c'est sûr que si on se centre vraiment sur la question de la lesbophobie...
Qu'on a nommé, d'ailleurs, hein, parce que c'est pas un terme qu'on utilisait beaucoup, l'homophobie propre aux lesbiennes. Ça, je trouve, c'est une avancée. Ça fait peut-être un an, je me souviens plus exactement, mais que la Ville de Montréal, je pense, a reconnu ce terme-là. Déjà, je voulais pas t'interrompre, excuse-moi, mais je trouve ça beau parce qu'on l'avait pas nommé encore. D'être capable de le nommer, ça montre une situation qui est concrète, l'homophobie dirigée directement envers les femmes lesbiennes.
Oui, tout à fait. Puis le vocabulaire, c'est fondamental.
Absolument. Hein,
l'absence de mots pour dire, ça participe à l'invisibilisation. Donc, c'est très important. Mais je crois que, voilà, le combat central qui reste par rapport à l'invisibilité des lesbiennes, et attention, c'est l'invisibilité des lesbiennes. Alors, voilà, il y a vraiment encore un travail important à faire pour la prise de parole publique, pour pouvoir revendiquer, encore une fois, ce que je disais tantôt, cette étiquette sans que ça ait l'air d'une maladie ou d'être excluant, parce que maintenant, il y a d'autres préjugés qui sont comme collés à l'étiquette de lesbienne. Moi, j'entends des nouvelles générations ou des personnes qui disent « Ah non, non, moi, je ne prendrai pas cette étiquette-là parce que ça exclut les personnes trans ou les personnes non-binaires. » Je dis « Ben, ton choix, tu sais. » Si toi, tu décides que ça exclut ça, fine. Mais moi, quand j'utilise cette étiquette-là, je sais ce qu'il y a dedans, puis ça m'appartient, ça me regarde. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours une bonne raison pour expliquer que cette étiquette-là, elle n'est pas valide, que cette identité-là, elle n'est pas valide, elle n'est pas assez ceci ou elle est trop cela. Ou, bon, bref. Donc, je pense que le travail, ça reste de faire en sorte que, à un moment donné, les personnes qui se ressentent dans cette identité-là puissent avoir leur moment où elles shine, vraiment. Mm-hmm. Et je terminerai là-dessus. J'ai l'impression que le lesbianisme, c'est comme c'est comme la griffe sur le long jeu, là, sur le 33 tours, là, tu sais, à un moment donné.
Belle référence, ouais, ça, Marie, ça, sur ouais. le long jeu.
Oui, merci.
Sur le vinyle, absolument. Voilà.
Toutes les lettres ont eu leur moment de gloire, mais quand on est chaque fois qu'on arrive au L, clic, ça saute parce qu'il y a une griffe. Tu sais. Mm. Ben, faisons en sorte qu'on nettoie la griffe. Ouais, je serais terminerai là-dessus.
Merci, Marie. Oui, les gens applaudissent. C'est vrai. Mireille, tu veux...
Ben non, en fait, j'allais dire comment suivre avec ça.
Oui, c'est bonne chance, les filles. Les défis, les obstacles, les tabous, encore. Ben, au FFQ, comment est-ce que... Bon, tu l'as dit un peu, mais vous en parlez spécifiquement par rapport aux lesbiennes. Qu'est-ce qui est sur la table là, qu'il faut que vous, qu'il faut que vous travaillez?
Ben, je pense que ben, c'est un peu... C'est ça, là. Ça demeure la visibilité, ça demeure l'espace, puis ça demeure pas juste... On intègre les lesbiennes à la Fédération des femmes. Non, les lesbiennes sont des femmes. Elles sont parties prenantes. Elles ont toute la place. Elles peuvent prendre toute la place. Tu sais, dans le fond, c'est un peu ça, là.
Ça, c'est une partie intégrante, là, du FFQ.
Ben, ouais. Intégrante, puis, tu sais, voilà. Comme... Et qui se tasse pas, tu sais, comme... Et qui est pas tassée selon la conjoncture politique, selon autre chose qui se passe. Tu sais, je pense qu'un des défis, c'est là, tu sais, à la FFQ, aussi dans le milieu féministe. Là, je pense que c'est vraiment transversal. Dans beaucoup d'organisations, il faut vraiment que la visibilité soit là tout le temps et qu'il y ait de l'espace pour pouvoir dénoncer les violences qui sont faites de la part d'autres femmes. Tu sais, je pense que ça demeure un tabou. Puis je pense que la solidarité est nécessaire entre toutes les femmes. Puis c'est ça qu'on va continuer à faire, je l'espère, tout le monde ensemble.
Mireille, quasiment le mot de la fin.
Oh mon Dieu.
Ah, voyons, j'ai comme
la pression. je vais aller un petit peu dans le même ordre d'idée où je pense que c'est vraiment une question aussi d'image ou l'image qu'on se fait de qu'est-ce que c'est une femme ou une personne lesbienne. Je pense que on est souvent quand même assez soit complètement invisibilisé ou vilainisé, en fait, les femmes féministes enragées. Hein, on nous accorde tout plein d'étiquettes. Puis tant que ces étiquettes-là ne seront pas détruites, je crois que c'est difficile de se faire une place en dehors de nous ensemble. C'est un défi particulier. Je pense que on parlait du rôle des organismes communautaires. Je pense que chaque organisme tente un rôle dans cette destruction-là de l'image, mais aussi cette mixité puis cette diversité-là qui, j'espère, va permettre un agrandissement. Mais ouais. Voilà.
Là, je ne veux pas repartir, je veux pas nous repartir sur une autre conversation, mais tu as dit vilainiser. Puis pour moi, ça vient vraiment me chercher parce que je trouve que moi, j'ai grandi, je trouve que j'ai une absence de modèle féminin lesbien. Ça change quand même, là, je trouve, mais pour moi, c'était totalement absent. Là, j'étais trop jeune pour regarder The L Word. Puis même à ce moment-là, là, je me suis bien rattrapée après, mais même à ça, il y avait quand même des problèmes dans la première mouture. Mais bref, récemment, j'ai vu le film Basic Instinct. Okay? J'avais jamais vu. Est-ce que vous avez déjà vu ce film-là, j'imagine, de 1992? Puis j'avais pas réalisé que Sharon Stone jouait un personnage bisexuel, finalement, puis que sa blonde, qui elle est lesbienne, est finalement, genre, une folle de la pire espèce, puis qui fait juste courir après Michael Douglas en char. Elle peut pas courir. En tout cas, peu importe. Mais je me suis dit, waouh, OK, ce film-là est parmi tant d'autres de l'époque des années 90, début 2000, tu sais, fin 80, où les femmes lesbiennes sont soit des aguicheuses, soit des débiles, soit très, ben c'est ça, t'es avec des gros stéréotypes. C'était mon commentaire éditorial sur la chose, mais ce que je veux dire, c'est que si je peux aller vers une conclusion, c'est que je pense que vos organismes, et ce que vous incarnez aussi toutes les trois à la tête de ces organismes-là ou dans les organismes, vous contribuez évidemment à rendre donc le lesbianisme et les lesbiennes beaucoup plus visible. Et ce travail d'accessibilité-là, de démystifier ça, d'en parler, c'est absolument important. Alors, je vous remercie, puis je vous remercie d'avoir participé à ça. Puis je ne peux pas croire que j'ai fini le balado en parlant de Sharon Stone et de Basic Instinct. Je m'excuse, on ne m'avait pas demandé de faire ça. Il y a d'autres choses qu'il faut voir avant ce film-là. Marie Ouzo, Mireille Saint-Pierre, Marie Ouzo de Gris Montréal, Mireille Saint-Pierre d'Interlink, Mélanie Hederer de la Fédération des femmes du Québec. Merci énormément d'avoir été là.
Merci à vous.
Ce balado est une production du Réseau des lesbiennes du Québec qui a été enregistré au Studio Idéal le 23 avril 2022. Vous pouvez suivre la nouvelle campagne du RLQ Invisibiliser, c'est discriminer sur le site web du RLQ ainsi que sur leurs réseaux sociaux. Et merci aux partenaires de la JVS, c'est-à-dire la Banque TD, ainsi que toutes les personnes qui ont participé au succès de cette journée. À plus tard!